France Culture.
Un classement d'abord paru aujourd'hui, celui de Transparency International sur la corruption, classement dans lequel la France dégringole, atteignant désormais la 25e place de l'indice de perception de la corruption, un classement qui pointe une absence de volonté, tout bord politique confondu. Une affaire ensuite révélée par Radio France et le journal Le Monde, affaire dite de la fraude aux eaux minérales, révélant justement que l'Élysée et Matignon semblent avoir privilégié les intérêts de Nestlé Waters au détriment de ceux des consommateurs. Dans ce contexte, comment envisager, aborder même la question des relations entre l'État et les entreprises? Ces relations peuvent-elles être saines, utiles et pour qui? Comment les encadrer et les organiser? Pour en débattre, pour en discuter, trois invités ce soir. Marie Dupin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France ainsi qu'à France Info. Face à vous, Kevin Gernier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du plaidoyer à Transparency International France et à vos côtés, Emmanuel Gavard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de rubrique Tech à Stratégie. Merci beaucoup à tous les trois d'être présents ce soir dans Question du Soir.
On voit que l'affaire prend un sérieux tournant politique et qu'on a l'impression que beaucoup de décideurs politiques ont clairement été mouillés dans cette affaire. En tout cas, ils ont pris des verbitrages qui n'allaient pas dans le sens de l'intérêt général et de la transparence. Clairement, la Commission européenne, la semaine dernière, noir sur blanc dans un mail, nous a confirmé qu'elle n'a jamais validé la décision de la France d'autoriser cette modification de microfiltration. Je la cite, elle n'a pas émis d'opinion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre légal ou scientifique permettant de modifier le seuil de filtration au gré des desiderata de la multinationale de Nestlé, comme ils l'ont demandé. Il faut maintenant que cette affaire a pris un tournant politique, le juge d'instruction a été désigné. Maintenant, il faut vraiment qu'il mène une information judiciaire en bonne et due forme et qui liste et qui couvre l'ensemble des infractions qui visent les multinationales, mais qui visent aussi les hauts fonctionnaires qui vont devoir répondre de leurs actes et on espère un procès et des sanctions exemplaires.
La directrice de l'information chez Foodwatch, elle s'exprimait sur France Info, chez nos confrères le 4 février dernier. Marie Dupin, expliquez-nous en quoi consiste cette affaire dite de la fraude aux eaux minérales, vous qui avez enquêté à ce sujet avec vos collègues du journal Le Monde.
Exactement, effectivement, ce sont des révélations qu'on a faites déjà il y a un an, hein, donc c'était fin janvier, il y a un an tout juste. Et ce qu'on a révélé effectivement avec mon confrère du Monde, Stéphane Foucard, c'est une vaste fraude aux eaux minérales. Alors au départ, avec Stéphane, on a commencé à travailler, on est parti d'un seul document, hein, c'était un bleu de RIM. Hein. Les RIM, c'est ce qu'on appelle les réunions interministérielles, donc c'était une décision qui avait été prise en réunion interministérielle. Et c'était en 2023, en février 2023, et à ce moment-là, le gouvernement français avait décidé d'accorder une dérogation à l'entreprise Nestlé pour utiliser certains filtres non conformes. C'est comme ça que c'est écrit très exactement dans cette RIM. Et à partir de là, on a enquêté, on a trouvé d'autres documents et on a découvert une vaste affaire effectivement de fraude aux eaux minérales. Et le principal acteur de cette fraude, eh bien, c'est la multinationale Nestlé qui, depuis en fait les années 90, utilise dans ses usines des filtres pour traiter des eaux qui sont vendues comme des eaux minérales naturelles, qui sont donc censées être des eaux pures, hein, à la pureté originelle, et qui sont en fait traitées parce qu'elles sont contaminées, notamment par des bactéries, mais aussi par des pesticides.
Pourquoi un acte 2 de cette affaire il y a quelques jours? De nouveaux papiers, de nouvelles révélations?
Voilà, exactement. Alors c'est vrai qu'il y a un an, on découvre cette affaire. On savait à ce moment-là que Nestlé traitait ces eaux minérales contaminées depuis très longtemps. On avait découvert que ces eaux étaient toujours contaminées aujourd'hui. On avait publié d'ailleurs, il y a eu pas mal déjà de rebondissements. Le premier rebondissement, c'est pas celui de la semaine dernière. On avait démontré à plusieurs reprises que les eaux exploitées par Nestlé pour fabriquer les eaux de Perrier, de Vittel, de Contrex, que ces eaux présentent encore aujourd'hui des problèmes de pollution, notamment à des bactéries. On savait aussi en janvier 2024, donc au moment de nos révélations, qu'il y avait eu du lobbying, hein, qu'il y avait eu un rendez-vous très confidentiel, organisé à Bercy, autour du cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, avec des représentants de Nestlé. Mais là, En fait, ce qu'on a révélé il y a quelques jours, eh bien, c'est vraiment les coulisses de l'opération de lobbying menée par Nestlé auprès de toutes les autorités politiques, donc auprès du ministère de l'Industrie, mais aussi auprès du ministère de la Santé, auprès de Matignon et même auprès de l'Élysée. Et là, on arrive avec tout un tas de documents qui permettent d'attester de cette opération de lobbying au plus haut niveau. On a des mails, on a des notes ministérielle. Et ça, c'est assez rare d'avoir tout ça. Donc, c'est pour ça que ces nouvelles révélations étaient nécessaires.
On va revenir, évidemment, sur la substance précise de cette affaire. Mais avant cela, Kevin Jernier, lorsqu'on entendait la directrice de l'information de chez Foodwatch, elle mobilise une notion, celle de l'intérêt général. Elle dit des arbitrages ont été pris au plus haut niveau de l'État, sans que ces arbitrages ne servent l'intérêt général. Comment est-ce que vous analysez, vous, ce commentaire ?
C'est cette question de la définition de l'intérêt général qui est pas tout à fait tranchée par beaucoup de politologues. On pourrait considérer que les entreprises représentent une partie de l'intérêt général du fait des emplois, par exemple, qu'elles vont créer, du fait de la richesse qu'elles vont créer. Mais l'intérêt général, ça dépasse cette notion économique et pour moi, ça se rattachera plutôt aussi à des notions de long terme. Il y a des notions basées sur un consensus scientifique et l'objet de la décision publique et des différentes parties prenantes, dont les lobbies qui prennent part à cette décision publique, c'est justement de contribuer à savoir ce qu'est cet intérêt général. Et à la fin, le responsable politique, il tranche en son âme et conscience selon son idéologie politique.
Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, chez Transparency International, justement, sur ces questions de lobbying, d'influence, c'est le mot qu'on utilise parfois pour lisser ce que sont véritablement ces relations. Comment est-ce que vous vous positionnez ? Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un intérêt à ce que ces lobbies existent dans la démocratie française, ou ils sont par nature, j'allais dire presque nocifs, ou en tout cas, est-ce qu'ils empêchent le bon fonctionnement de notre démocratie ?
Alors, nous, à Transparency International, on considère que le lobbying, ça peut être une pratique qui s'inscrit dans le débat démocratique sous certaines conditions, notamment de transparence, d'intégrité et d'équité. Donc, on ne demande pas une interdiction totale du lobbying des entreprises, mais on demande par contre un encadrement et une régulation assez stricte pour s'assurer que ça ne soit pas des pratiques qui permettent de dévoyer justement l'intérêt général, de capturer la décision publique.
On va revenir bien sûr sur ce cadre qui évolue largement depuis ces dernières années. Mais avant, Emmanuel Gavard, comment est-ce qu'on définit même ce qu'est un lobby ? On voit que ça peut prendre des formes extrêmement diverses, des fédérations, des cabinets de conseil, des entreprises en tout genre. C'est quoi pour vous un lobby ?
Un lobby, ça recoupe énormément de réalités différentes. Vous allez avoir des cabinets de conseil qui vont faire de la veille technique, de la veille sur les parlementaires, de la veille sur les réseaux, de la veille d'actualité. Vous en avez qui vont, eux, aller beaucoup plus loin, faire carrément des recommandations. Alors, les politiques aiment beaucoup ça parce que ces recommandations vont souvent être très concrètes, vont parfois être vraiment sur étagère, avec des idées, des projets de loi ou des choses comme ça. Ils vont les conseiller, ils vont leur apporter de la connaissance. Puis après, vous avez le lobby qui est plus ancré dans l'image qu'on voit dans les films et qui tient son nom des discussions de couloir dans le lobby. C'est pour ça qu'on appelle ça le lobbying. Et là, ça va être plus de l'influence, des dîners, d'essayer d'avoir des numéros de téléphone pour pouvoir parler plus directement à telle politique ou à telle personne, quoi.
Pour qu'on puisse véritablement mesurer les choses, comment ces entreprises, ces fédérations, ces lobbies, vous le dites, comment ont-ils accès aux décideurs publics, que ce soit dans des ministères, à Matignon, jusqu'à l'Élysée parfois ?
C'est là où c'est un très long travail et c'est très dur. Je pense que la réalité, et ça ils vous le diront jamais publiquement, c'est que c'est très compliqué même pour certains cabinets d'avoir des rendez-vous avec des parlementaires. La plupart galèrent. Après, vous avez des cadors et des champions qui sont souvent assez peu médiatisés aussi et qui eux ont plus de comment dire, sont un peu plus dans les secrets de l'État. Comment ça marche ? Vous avez des agences de conseil vous avez des fédérations, c'est toute une organisation de gens qui se retrouvent et qui débattent d'intérêts tous ensemble et c'est la logique du réseau qui prévaut évidemment, où le but c'est de se rencontrer, de se connaître et de partager. C'est une question qu'on qu'on peut poser après, mais justement qui partagent aussi une même vision de l'intérêt général pour eux.
Marie Dupin, justement, grâce à la somme de documents que vous avez recueillis, oui, glanés, que vous avez obtenus en tout cas, comment est-ce qu'on retrace le parcours de ces lobbyistes? Comment sont-ils parvenus à accéder, vous le disiez, jusqu'à l'Élysée, jusqu'à Matignon? Comment est-ce qu'ils obtiennent concrètement, il faut nous expliquer, ces rendez-vous?
Ah bah alors visiblement, oui, vous disiez qu'il y avait certains lobbyistes qui étaient un peu des cadors et qui avaient accès assez facilement en fait au centre de pouvoir et aux décideurs. Visiblement, ça semble être le cas de Nestlé. Voilà, ce qui ressort des documents qu'on s'est procurés, c'est que en fait, Nestlé est effectivement toujours accompagné d'un cabinet de lobbying, enfin d'un lobbyiste en particulier, hein, qui s'appelle Nicolas Bouvier, qui travaille pour un cabinet de lobbying qui s'appelle Brunswick Group. Nicolas Bouvier, qui est d'ailleurs membre de l'AFCL, qui est une des principales associations de lobbying en France, et il est toujours présent aux rendez-vous qui sont organisés avec les cabinets des ministères ou avec le cabinet de la Première Ministre Elisabeth Borne. C'est vraiment lui qui est à la manœuvre de cette opération de lobbying, et il sait exactement, visiblement, d'après les documents qu'on a, à qui s'adresser. C'est-à-dire que d'abord, à qui va... C'est-à-dire que là, sur cette affaire d'eau minérale naturelle, le lobbyiste sait très bien qui va aller voir en premier. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller voir le ministère de la Santé pour admettre qu'il y a une fraude et qu'ils ont installé des filtres interdits. Non, ils vont s'adresser à
il
qui?
Il aura plus de chances d'avoir gain
voilà,
de cause auprès de Bercy.
Ils vont s'adresser d'abord au ministère de l'Industrie pour dire, voilà, on a installé des filtres interdits, enfin, non, interdits dans nos usines. Voilà, on sait que ce n'est pas bien, mais on va remettre tout d'équerre. Mais voilà, en fait, ils y vont pourquoi? Ils y vont pas parce que voilà, ils ont décidé de faire leur grand mea culpa. Ils y vont parce qu'ils ont appris qu'il y avait peut-être une enquête de la répression des fraudes et qu'ils n'ont pas envie de, bah voilà, ils n'ont pas envie qu'on leur interdise d'utiliser des filtres. Donc ils y vont directement pour négocier et pour avoir des informations sur l'enquête. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans une note de compte rendu d'une de ces réunions qu'on a récupérées. Voilà, c'est-à-dire que le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher écrit noir sur blanc. Voilà, on a vraiment l'impression. Il faut prendre avec prudence leurs intentions de transparence, puisque vraiment, on a surtout l'impression qu'ils veulent des informations sur les enquêtes en cours. En tout cas, ce fameux Nicolas Bouvier, il est très renseigné, puis très bien renseigné, puisqu'il sait vraiment à qui s'adresser. Il s'adresse notamment à Victor Blonde, qui est conseiller partagé entre l'Élysée et Matignon, sur ces questions-là de consommation. Et il s'adresse, il tape dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il va aussi taper à la porte de la préfecture. On a aussi des échanges de mails avec le patron de l'agence régionale de santé d'Occitanie. Donc en fait, il est vraiment présent à tous les niveaux de la décision politique.
J'aimerais vous faire entendre la voix de Fabrice Alexandre, il est directeur associé chez Communication et Institutions, un cabinet de conseil en affaires publiques et lobbying à Paris qui existe depuis 1983. Il explique au journal Le Monde les raisons d'être même du lobbying.
Le lobby, c'est un représentant d'intérêt dont l'expression est naturelle, légitime, souhaitable, utile dans le dialogue démocratique. Moi, je n'imagine pas une démocratie dans laquelle les intérêts ne pourraient pas être représentés et défendus. Au-delà de la légitimité, c'est utile. C'est utile parce que, ce faisant, les représentants d'intérêt apportent des informations, des données, des analyses qui permettent aux décideurs d'appréhender un sujet dans sa complexité.
Il ne faut peut-être pas non plus que l'on caricature cet enjeu. Les relations entre entreprises et État, Kevin Gernier, elles sont fondamentales, elles sont même utiles pour comprendre le secteur économique dans lequel elles interagissent, pour tenter de récolter des informations, pour comprendre aussi parfois les contraintes qui pèsent sur elles. La question, c'est plutôt comment organiser ces relations.
Oui, totalement. Hein. D'autant plus qu'on a des secteurs qui sont de plus en plus complexes, qui sont de plus en plus difficiles à comprendre. On le voit avec l'intelligence artificielle, par exemple, pour les responsables publics. Donc, ils ont besoin d'avoir des retours, ne serait-ce que pour l'expertise du terrain des représentants économique, encore faut-il que ces retours soient fiables. Or, on le sait, il y a des cas par le passé, hein, qui sont assez nombreux, où des entreprises ont raconté littéralement n'importe quoi aux responsables publics pour défendre leur intérêt particulier.
Comment est-ce que la loi, aujourd'hui, la loi organise ces relations entre ces lobbies et l'État, hein? C'est la loi dite Sapin 2, hein, qui a été votée par le Parlement en 2016, qui régit ces rapports. Résumez-nous peut-être de quoi il s'agit, comment elle est organisée.
Oui, alors la loi Sapin 2 de 2016, déjà, elle est venue poser une définition juridique sur ce qu'est qu'un, donc on appelle ça un représentant d'intérêt en droit français. Donc ça a été une définition qui a été assez large, donc qui inclut les entreprises, leurs cabinets de conseil, leurs fédérations, mais aussi les ONG. À ces représentants d'intérêt, elle est venue leur imposer des obligations à la fois de transparence et de déontologie. Alors sur la transparence, ça va être, à partir du moment où on fait du lobbying de façon principale ou régulière, on doit s'inscrire sur un répertoire public en ligne qui est tenu par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, et on doit y déclarer un certain nombre d'informations, ses dépenses de lobbying de l'année écoulée, ses lobbyistes, voilà le nom de ces lobbyistes, pour que les responsables publics sachent qui ils ont à faire et qui sont les intérêts, quels sont les intérêts représentés, les actions de lobbying qui ont été menées au cours de l'année écoulée, et ensuite sur les obligations déontologiques qu'on a tendance à oublier, il y a quand même des obligations déontologiques très importantes, notamment de sincérité. Voilà, on ne peut pas mentir quand on fait du lobbying et tous les coups ne sont pas permis, sinon c'est la légitimité même de la participation au débat démocratique qui est remise en cause.
Est-ce qu'il vous semble, vous, Emmanuel Gavard, dans les activités que vous connaissez le mieux, hein, je pense notamment au secteur des nouvelles technologies, est-ce qu'il vous semble que cette loi Sapin 2 encadre correctement, dûment, les relations entre l'État et les entreprises ?
Sur l'application directe de la loi et de sa légitimité, j'avoue que je ne pourrais pas me prononcer directement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je sais que la loi Sapin 2, qui encadre aussi le statut de lanceur d'alerte, est encore très décriée. Ça fait même encore beaucoup rire aujourd'hui quand on va voir des gens, même en tant que journaliste, et qu'on parle du statut de lanceur d'alerte. On sait très bien qu'il y a très peu de protection sur ce niveau-là. Donc en fait, il y a plein de scandales. On parle du problème des Nestlé Papers, mais on voit pas tous ceux qu'on ne voit pas. Donc ceux-là ne sortent pas, et il y en a sûrement d'autres. Donc sur l'application de la loi en elle-même, dans la tech, je peux pas vous dire. En tout cas, dans tout ce lobbying, il y a ce lobbying de couloir et silencieux, mais il y a aussi celui qui est complètement public. Et là, on a des exemples flagrants sous les yeux, qui est complètement assumé. Et on est en plein sommet de l'IA en ce moment-là, en France, à Paris. Et hier, il y avait une coalition de 60 entreprises, donc entreprises européennes, qui annoncent clairement faire une coalition pour faire pression au niveau des États et au niveau de l'Union européenne pour assouplir l'IA Act, c'est-à-dire la loi qui encadre l'intelligence artificielle, qui a été publiée au Journal officiel il y a même pas deux semaines. Donc c'est complètement public, c'est complètement assumé de la part de dire oui, la loi est passée, mais on va essayer de la changer.
Kevin Jernier, je reviens justement sur cette loi Sapin 2. Quel manque, quelle béance vous identifiez, notamment peut-être dans les décrets d'application de cette loi.
Oui, alors petite parenthèse, je ne serai pas aussi catégorique que vous sur les lacunes de la loi Sapin 2 en matière de protection des lanceurs d'alerte, parce que notre ONG, elle a fait beaucoup de lobbying justement sur cette loi Sapin 2.
Et, bon, vous êtes lobbyiste vous-même alors ?
Oui, pas de souci à le dire, je suis lobbyiste, je suis diplômé d'un master de lobbyiste, je donne des cours à des lobbyistes et j'utilise tous les jours des techniques de lobbying qui sont en partie les mêmes que celles des entreprises. Alors, quand on fait du lobbying en ONG, on a des techniques de lobbying qui sont un peu plus larges, parce qu'on fait aussi du plaidoyer. Voilà, on peut mobiliser les citoyens, ça, c'est pas à la portée de toutes les entreprises. Mais je reviens sur la loi Sapin 2. Donc voilà, c'est une loi sur laquelle on a fait beaucoup de lobbying nous-mêmes, dont on est partiellement satisfait. S'agissant des mesures relatives à la transparence du lobbying dans la loi Sapin 2, le problème qu'on a eu, c'est que le législateur était plutôt ambitieux, mais ensuite, quand il s'agissait de décrire plus précisément les conditions d'application de la loi à travers notamment un décret d'application qui venait préciser une série de catégories, de définitions qui étaient fixées par la loi, on a beaucoup de lobbies économiques, notamment le MEDEF, la FEP, qui se sont introduits dans la brèche et qui ont fait beaucoup de lobbying pour restreindre au maximum ces obligations déclaratives. Et on se retrouve aujourd'hui avec un dispositif qui est un peu bancal.
Je me permets de vous couper pour expliquer en sous-texte ce que vous dites. Il y a différents moments dans le lobbying. Oui. Il y a le moment où la loi est écrite, pensée en commission. Il y a le moment où la loi est examinée lors d'une assemblée, justement, à l'Assemblée nationale. Il y a aussi ce moment des décrets d'application qui est absolument capital, puisque le diable se loge dans les détails, on le sait. Et c'est là, justement, que les moments de lobbying sont parfois les plus intenses.
Ah oui, non, mais souvent, l'attention médiatique, quand il s'agit d'une décision publique, elle se concentre sur la procédure législative, donc l'examen à l'Assemblée, au Sénat. En réalité, l'essentiel de l'influence des lobbies économiques, elle va se faire très en amont, donc au moment où les projets de loi seront rédigés par les ministères, et là ça va être des procédures qui sont très opaques, et très en aval, au moment où les décrets d'application qui sont très techniques, où il n'y a pas grand monde qui comprend grand-chose, à part justement ces experts des lobbies qui vont parfois manipuler un peu leur expertise à l'avantage de l'entreprise qu'ils représentent, et aussi très en aval en matière d'application de la loi, où le lobbying continue encore, et là c'est aussi beaucoup plus opaque. Donc je reviens sur cette question du décret d'application sur le répertoire de transparence du lobbying issu de la loi Sapin 2. Il est venu fixer des conditions qui ont un peu vidé la loi de sa substance, en réalité. Notamment en fixant un critère de l'initiative qui était un peu nouveau, qui en gros oblige les lobbies à déclarer leurs actions de lobbying uniquement quand elles sont effectuées à leur initiative.
Mais pas l'inverse. Voilà, si l'État se rend auprès d'une entreprise pour demander un conseil fiscal, par exemple, là, on n'est pas obligé de le notifier.
Non, quand la communication est initiée par un haut fonctionnaire, par exemple, le lobby n'a rien à déclarer, ce qui crée un petit problème d'équité, parce que souvent, ce sont les gros lobbies économiques qui vont être sollicités systématiquement, comme le MEDEF, la FEP, encore une fois, par les ministères quand il s'agit de rédiger un texte de loi. Et les lobbies qui ont moins d'argent, les ONG par exemple, eux vont systématiquement devoir démarcher ces ministères.
Marie Dupin, est-ce que les relations entre l'État et Nestlé auraient été différentes, du moins d'une autre nature, si cette loi Sapin 2 avait été jusqu'au bout de sa raison d'être ?
C'est-à-dire que là, on parle effectivement de la question de la transparence. On voit bien que dans cette affaire, si nous, journalistes, nous n'avions pas fait notre travail de journaliste, si nous n'avions pas récupéré tous ces documents qu'on récupère depuis un an par différents biais, c'est-à-dire via des lanceurs d'alerte, justement.
Oui, c'est-à-dire si on ne vous les avait pas transmis.
Exactement, si on ne les a pas transmis via les administrations, mais aussi via la CADA, puisqu'en France, il existe aujourd'hui une commission d'accès aux documents administratifs. Donc, certains documents, on les a récupérés via ce processus, mais là encore, ce n'est pas totalement transparent. C'est-à-dire que la commission d'accès aux documents administratifs permet aux journalistes et même aux citoyens qui veulent récupérer certains documents administratifs de les demander. Et ensuite, l'administration, c'est un peu au bon vouloir de l'administration de les transmettre ou pas. Et c'est vrai qu'on a certaines administrations qui jouent vraiment le jeu de la transparence et qui nous ont transmis tout un tas de documents, d'autres administrations avec lesquelles c'est plus compliqué. En tout cas, sur cette question de la transparence et de la loi Sapin, ce qu'on réalise, c'est que oui, effectivement, Nestlé, par exemple, le premier rendez-vous en 2021 n'a a priori pas été déclaré auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ce qui est normalement une obligation. En tout cas, il y a une enquête de la HATVP sur ce sujet. Ensuite, effectivement, Nestlé a déclaré son activité de lobbying. Mais donc je suis allée voir, avant de venir vous voir, ce qu'ils ont déclaré exactement pour que vous voyez un petit peu en quoi ça consiste. Mais en fait, c'est extrêmement flou, c'est extrêmement fou ce que dit Nestlé. Nestlé dit que elle a effectivement mené une opération de lobbying pour travailler sur l'amélioration de la réglementation. Mais en fait, il ne s'agit pas pour clarifier la réglementation. Mais il ne s'agit pas de clarifier la réglementation, il s'agit de changer la réglementation pour ses propres intérêts. Et en fait, ce n'est pas du tout présenté comme ça. Et c'est vrai qu'on parle de transparence, mais en fait, tout ça est très très opaque. C'est-à-dire que les citoyens ne savent pas qui est intervenu dans cette affaire Nestlé, à quel niveau, auprès de quel décideur politique, quels ont été les arguments qui ont été utilisés, pourquoi en fait le gouvernement a finalement décidé d'accorder à Nestlé la possibilité d'utiliser des filtres interdits, des filtres non conformes, et bien tout ça, si on n'avait pas fait notre travail de journaliste, tout ça on ne l'aurait pas su en fait.
Une réaction, Kevin Jarnier ?
Non,
Emmanuel Gavard, pardonnez-moi.
En fait, la question, c'est qu'on pourrait presque se poser si c'est vraiment du lobbying qui a été effectué, parce qu'on l'a bien vu quand Kevin décrivait le processus. Et le métier du lobbying consiste aussi en un métier essentiellement législatif, qui consiste à, en amont de la loi ou dans le processus d'élaboration de la loi, d'essayer d'expliquer ses intérêts et de tirer la loi vers un sens qui nous va le mieux, ou en tout cas du sens qu'on fait de l'intérêt général. Là, ce qu'on a quand même dans l'exception des Nestlé Papers, c'est que Nestlé n'a agi que pour son compte, visiblement, en tout cas, de ce qui est sorti. Il n'y a aucun processus législatif en cours ou quoi que ce soit, c'est juste pour avoir un passe-droit vis-à-vis de la réglementation. On est plus clairement là sur... Je ne suis pas avocat ou juriste pour qualifier les choses, mais on est clairement dans quelque chose qui s'apparente plus à du conflit d'intérêts direct
C'est-à-dire que Nestlé demande à pouvoir frauder légalement.
En fait, c'est comment je m'arrange, moi, particulier, avec la loi. Mais ce n'est pas comment temps, j'essaye de faire basculer la loi d'un côté ou de l'autre.
Kevin Jernier, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée selon laquelle le point fondamental de cette affaire à Nestlé Waters, c'est d'abord une question de transparence entre cette entreprise et l'État, bien plus d'ailleurs que la question des lobbies économiques?
Oui, bah il y a un enjeu de transparence parce que, comme le disait Marie Dupin, la déclaration qui a été faite par Nestlé Waters à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, elle est extrêmement flou.
J'ai retrouvé exactement, ils disent, voilà, alors, ils disent clarifier les modalités d'application des réglementations applicables aux sites industriels au regard des impacts du changement climatique. Alors tout ça n'a quand même rien à voir avec le changement climatique.
Alors Kevin Jernier, une réaction?
Bah non, mais ça c'est révélateur des failles de la loi Sapin 2 aussi, parce que la loi Sapin 2 elle impose pas ce qu'on déclare la référence exacte de la décision publique qui est visée. Donc on doit se contenter de déclarer une catégorie de décision publique. J'ai visé la loi, un règlement, c'est pas grand chose. On doit pas déclarer l'identité exacte des responsables publics rencontrer, juste une catégorie. Donc
on va dire je vais voir un député, voilà, je vais voir un conseiller ministériel, mais pas plus.
C'est pas plus. Voilà. Et en plus, vu que la majorité des membres du gouvernement en France ne publient pas leur agenda de rencontre avec des lobbyistes, bah, on n'est pas très avancé pour savoir qu'est-ce qui a été exactement défendu. Voilà. Et en plus, on n'a pas accès non plus aux documents techniques, aux notes de position qui sont envoyées par le lobby aux responsables publics, alors même que ce sont des éléments qui vont servir de fondement à la décision publique. Et on ne peut pas les contre-expertiser et en délibérer dans le débat public sans le travail des journalistes qui a été fait là sur Nestlé Waters, par exemple.
Emmanuel Gavard.
Oui, une anecdote assez rigolote là-dessus sur que moi je tiens du monde de la tech, c'est TikTok. TikTok en 2020, pour comprendre un peu comment on peut biaiser et comment l'aspect juste déclaratif peut avoir des limites. TikTok en 2020 avait plutôt mauvaise presse dans le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'époque où Donald Trump voulait l'interdire. Et en gros, il y avait une grosse opération de communication politique de la part de TikTok pour essayer d'expliquer en quoi ils étaient pas forcément dangereux pour les enfants, ils essayaient de le protéger, ils essayaient de faire les choses bien.
On accusait l'entreprise d'espionnage notamment.
Exactement. Et en fait, à l'époque, TikTok avait énormément de mal à avoir des rendez-vous avec les élus, les élus français, parce que quand vous appelez TikTok, c'était tout de suite le clignotant, c'est la Chine, c'est une puissance étrangère, on veut pas avoir affaire avec eux. Et en fait, TikTok avait à l'époque racheté une petite application de médias qui s'appelait News Republic, qui était une application de traduction que vous avez peut-être connue de 2015 à 2020, qui traduisait des articles internationaux. Et en fait, cette application était, elle, déclarée au niveau de la Haute Autorité de la Transparence pour la Vie Publique comme organisme de représentation de ses intérêts. Mais ce qui fait que quand vous vous appelez News Republic et que vous envoyez un mail à un élu, c'est beaucoup plus facile d'avoir un rendez-vous que si vous vous appelez TikTok où de suite, on va pas vous répondre. Et en fait, ça permet un peu de biaiser le truc. Et en fait, quand on regardait, TikTok avait acheté d'autres applications du même type dans d'autres pays. Je sais qu'en Inde, elle avait acheté une application du même genre pour adolescents et ainsi de suite. Et ça vous permet d'avoir une sorte de prête-nom pour pouvoir après aller représenter vos intérêts de manière un peu déguisée, même si le rachat était tout à fait, lui, transparent. Mais c'est juste que c'est un peu plus facile pour accéder aux arcanes du pouvoir.
Est-ce que le sujet, Marie Dupin, c'est l'existence même des lobbies ou le fait que ces lobbies ont un pouvoir et un accès à l'État radicalement différent selon les secteurs que l'on évoque? Je prends un exemple, le secteur du vin, par exemple, dont on dit souvent qu'il a des accès très directs au sommet de l'État et que ce lobby-là est capable de faire plier certaines législations, notamment en défaveur de la santé et du point de vue défendu par le ministère de la Santé. Est-ce que là, le problème, c'est l'existence d'un lobby du vin ou le fait que peut-être les représentants, au sens large du secteur de la santé des Français, ont des accès moindres aux représentants et à la tête de l'État?
Alors, cette question de la santé, de l'intérêt, des intérêts sanitaires, des intérêts environnementaux et des intérêts économiques, pour moi, elle est fondamentale.
C'est toujours les trois grands sujets qu'on évoque.
Oui, mais alors voilà, c'est-à-dire que je pense que la question, on parlait d'intérêt général aujourd'hui. Qu'est-ce qui doit primer aujourd'hui? Est-ce que l'intérêt sanitaire? Est-ce que les intérêts environnementaux? Puisque finalement tout ça, c'est quand même la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus proche de l'intérêt général que de préserver la vie en fait? Et c'est vrai que je pense que toutes les crises qu'on traverse aujourd'hui, les crises écologiques, doivent aussi nous permettre de repenser la notion d'intérêt général. Et dans cette affaire Nestlé, on se rend compte que clairement, ce sont les intérêts économiques, les intérêts financiers d'une entreprise qui ont primé sur, sur la santé des consommateurs, sur leur portefeuille aussi, mais clairement sur la santé. Et d'ailleurs, on parlait des notes qui sont rédigées par les ministères. Nous, on a eu accès à ces notes ministérielles et on voit bien qu'on a le ministère de la Santé qui pousse Matignon en disant attention, il y a un risque sanitaire, attention, le directeur général de la Santé qui dit attention, il ne faut pas mettre en place...
Ça veut dire qu'au sein de l'État, l'alerte est lancée.
Oui, tout à fait. Au sein de l'État, l'alerte est lancée et il y a vraiment un dissensus entre le ministère de la Santé qui veut préserver les intérêts sanitaires et le ministère de l'Industrie qui clairement veut préserver les intérêts de Nestlé. Et in fine, qui l'emporte ? Eh bien, c'est le ministère de l'Industrie. Et toutes ces notes ministérielles, finalement, elles sont effectivement... on y a eu accès, mais ce ne sont pas des notes qui sont accessibles au grand public. S'il y avait plus de transparence, si on avait accès à tout ce travail réglementaire, ou en tout cas en amont de la réglementation, peut-être que la décision politique aurait été différente, puisque là, une fois qu'on a accès à toutes ces notes, on se rend compte que l'État prend sa décision en sachant qu'il y a un possible risque sanitaire, en sachant qu'il est en infraction avec la réglementation européenne. Très certainement, si les citoyens avaient eu accès à tout le travail qui a été effectué par les administrations et par le ministère notamment de la Santé, très certainement, la décision politique n'aurait pas été la même.
Dans le même temps, Kevin Jarnier, on ne peut pas exiger la transparence totale sur ces notes, sur ce travail administratif, sur ce travail ministériel. Ça n'aurait même plus de sens pour le travail des administrations.
Alors, il y a effectivement un secret juridique des délibérations du gouvernement qui existe et qui peut permettre de s'opposer à la communication de certains documents de travail du gouvernement. Néanmoins, il y a aussi un droit d'accès aux documents administratifs, voilà, que peut utiliser n'importe quel citoyen sans avoir à se justifier aucunement de son intérêt à demander un document. Et ce droit, il indique notamment que tous les documents de lobbying produits par des lobbies et envoyés à des responsables publics, et ainsi que les correspondances écrites qui les soutiennent, ce sont des documents administratifs communicables. Et comme vous l'avez relevé, l'exécutif, souvent, n'applique pas ce droit d'accès aux documents administratifs et refuse catégoriquement de communiquer ces documents produits par des lobbies.
Est-ce que les recours au tribunal administratif fonctionnent dans ces cas-là pour obtenir justement ces documents ou c'est peine perdue ?
Ça fonctionne, mais c'est très long. Il faut quand même beaucoup d'énergie. Ça se compte en années quasiment pour obtenir le document souhaité. Et à la fin, quand on a le document, la décision publique elle est déjà prise. C'est comme la loi Sapin 2, donc on doit déclarer ses actions de lobbying que pour l'année précédente. Donc souvent, on a l'info qu'une fois que la décision publique est prise, et c'est trop tard pour contre-argumenter.
On est devant le fait accompli. Emmanuel Gavard, vous souhaitiez réagir ?
Oui, je pense qu'il y a aussi une autre question à se poser. Il y a ce que la loi peut encadrer, il y a comment on peut mettre des autorités pour essayer de savoir ce qui se passe et de mettre plus de transparence. Mais il y a aussi une question qui est pour moi éminemment sociologique. Quelle est la sociologie des gens qui sont au pouvoir et quelle est la sociologie d'où viennent et avec qui ils travaillent ? Il y a un indicateur pour toutes ces agences, les grandes agences de communication qui vont conseiller donc les patrons du CAC 40 qui derrière vont essaimer beaucoup de conseillers dans les ministères. En fait, l'indicateur de puissance d'une de ces agences, c'est de savoir combien de personnes ont essaimé parmi les ministères, combien on a placé de ces gens-là au sein des ministères. Et ça pose des questions... Alors, ça peut poser des questions de pantouflage, de rapport public-privé. Bon, ça, c'est encore un autre
le
débat.
Le pantouflage, je rappelle que c'est le fait de passer au sein de sa carrière du secteur public au secteur privé ou l'inverse.
Exactement. Mais après, on veut des politiques qui aient une réalité du terrain, donc qu'ils aient travaillé aussi, et ainsi de suite. Bon, ça pourrait être encadré à la rigueur. Mais ce qu'il faut se poser aussi comme question, c'est justement, Marie parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui définit l'intérêt général et on s'aperçoit que l'intérêt économique passe toujours au premier plan. Mais en fait, quand vous avez des personnes qui viennent tous d'un même milieu et qui partagent finalement les mêmes priorités et la même vision du monde, en fait, derrière, ils vont se retrouver et discuter ensemble. Et on peut se poser finalement la question si quand Nestlé va voir les dirigeants, pour eux, est-ce que c'est pas une simple réunion de travail, en fait, de se dire, oui, on essaye de régler le problème ensemble, finalement.
L'autre actualité du jour, Kevin Jarnier, je voudrais vous faire commenter, c'est la France qui dégringole au classement de Transparency International sur la corruption. L'ONG place désormais le pays à la 25e place de son indice de perception de la corruption et pointe, je cite, une absence de volonté, tout bord politique confondu, de lutter contre les atteintes à la probité. Fin de citation. Alors pour commencer, comment on explique cette dégringolade ?
Alors c'est compliqué à expliquer. Cet indice, c'est un agrégat de plein d'indicateurs qui sont issus en fait de questions qui sont posées à des experts ou au milieu économique sur leur perception de la corruption dans le secteur public. C'est un indice qui porte uniquement sur la perception de la corruption dans le secteur public.
Quand vous dites perception, ça veut dire encore une fois qu'on parle effectivement de perception ou vous mesurez quelque chose d'objectif ?
La corruption, elle peut pas être mesurée objectivement parce que par définition, elle est cachée. Donc, on est obligé de mesurer sa perception. Et il y a aussi une question de cette perception, elle est autoréalisatrice puisque si les acteurs économiques pensent qu'une administration dans un pays est corrompue, ils vont plus facilement être amenés à corrompre peut-être. Ce que ça illustre, en tout cas, c'est que il y a eu un essoufflement en France dans la lutte contre la corruption. En gros, on a eu un grand bond dans la lutte contre la corruption en France entre 2013 et 2017, entre Cahuzac et la première loi confiance dans la vie politique d'Emmanuel Macron. Et depuis, on n'a plus grand-chose. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un affaissement de la volonté politique de la part de l'exécutif à continuer le combat sur ce terrain-là, alors même que c'est vraiment essentiel.
Marie Dupin, en tant qu'enquêtrice, en tant que journaliste qui mène des enquêtes nombreuses, régulières, vous nous disiez d'ailleurs que vous étiez passée à une nouvelle enquête, hein, puisque vous êtes passée à un autre sujet depuis le sujet Nestlé Waters. Comment est-ce que vous percevez ce sujet de la corruption? Est-ce que vous êtes surprise même de cette dégringolade française?
Écoutez, je ne sais pas. Oui, en tout cas, c'est un indicateur supplémentaire qui devrait inviter les décideurs politiques à réfléchir à cette question et à comment on assainit les relations entre l'État, les intérêts privés.
Il faut expliquer, par ailleurs, Kevin Jernier, en quoi cette question de la corruption, elle mine le rapport à la démocratie, le rapport des citoyens à la démocratie, en quoi l'un et l'autre sont consubstantiellement liés.
La corruption, de façon large, c'est pas seulement les atteintes à la probité qui sont contenues dans le code pénal. Hein. La corruption, c'est un processus large de destruction de la démocratie. Voilà, tout simplement. Donc, si les citoyens sont persuadés que leurs dirigeants sont corrompus, ils n'ont absolument aucune raison de se plier aux normes qui sont décidées collectivement, parce que elles ne sont pas légitimes. Et ça mène finalement à des contestations de la démocratie libérale telle qu'on la connaît en France, et à des tentations autoritaires et populistes.
Emmanuel Gavard.
Oui, j'ai retrouvé un autre indicateur, qui est le Trust Barometer d'Edelman, c'est l'indicateur de confiance envers les dirigeants, qui est fait sur 33 pays. Et j'ai retrouvé quelques chiffres pour la France qui datent de la semaine dernière, et je trouve que c'est très alarmant à coller aussi à celui de Transparency Watch. En fait, on observe donc parmi les journalistes toujours une défiance du public, mais ça c'est vieux comme le monde. Chez les politiques, c'est pas très bon non plus. Par contre, il y a un décrochage extrêmement fort, et c'est la première fois qu'il note ça sur un an, de 15 points des dirigeants économiques. Et ça, c'est une première dans l'indicateur dans cet indicateur de confiance. Et un autre chiffre qui vient de ce truc-là, qui est assez alarmant aussi, c'est que pour la première fois, on dépasse 35% des Français pour avoir recours à la violence, normale, le recours à la violence légitime pour accélérer le changement. Et je pense qu'il faut que les décideurs politiques prennent en compte qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont très alarmants en ce moment pour le rapport à la démocratie, justement. Il faudrait peut-être se bouger un peu.
Kevin Jernier, comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on fait évoluer en quelques mots cette loi Sapin 2 ou même son décret d'application?
Les mesures qu'il faudrait adopter selon nous, c'est déjà abaisser les seuils d'inscription, renforcer la fréquence de déclaration et surtout la précision des informations qui doivent être déclarées. Enfin, on ne peut pas se satisfaire que Nestlé Waters mène cette opération de lobbying un peu sous les radars en faisant une déclaration dont on ne sait même pas d'ailleurs si elle a respecté les vagues critères qui sont demandés par la loi. On ne peut pas se satisfaire qu'il se soit senti autorisé à démarcher les responsables publics pour adapter le cadre légal à leurs pratiques illégales. Voilà, donc on veut des informations plus précises et aussi les notes. J'insiste beaucoup, le lobbying qui se cache souvent dans les détails techniques, et les citoyens, ils ont le droit de connaître ces détails techniques. Ils ne sont pas trop stupides pour les analyser. Donc, par exemple, les notes de position envoyées par les lobbies, on a le droit de les analyser et de donner notre avis, notamment les ONG, les scientifiques, les journalistes.
Merci à tous les trois de cette discussion. Emmanuel Gavard, j'appelle que vous êtes chef de rubrique Tech à la revue Stratégie. Kevin Jernier, vous êtes responsable du plaidoyer à Transparency International France. Et Marie Dupin, journaliste à la cellule Investigation de Radio France et à France Info. Marie, où est-ce qu'on retrouve votre enquête pour la parcourir, pour la lire, pour l'écouter?
Sur tous les sites de Radio France, France Info, France Inter, France Culture aussi, je crois.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir à Question du Soir.
Merci.